Les connexions entre l'art et la science sont nombreuses et l'une des plus anciennes sciences du monde, l'astronomie, illustre parfaitement les relations étroites entre le ciel et les artistes. Sujet d'inspiration inépuisable, l'astronomie se retrouve au centre de multiples œuvres, mais les scientifiques ont également besoin de l'art pour représenter leurs observations au travers du dessin, par exemple. C'est donc ce lien entre l'art et l'astronomie que nous allons explorer cet après-midi dans le dossier de la Tête au Carré avec mes invités. Je vous les présente dans un instant, mais d'ores et déjà, vos messages et vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et puis toujours dans le ciel, une sonde s'envole demain sur la piste des ondes gravitationnelles et c'est aujourd'hui la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, elle s'appelle Lisa et c'est la petite dernière de l'Agence spatiale européenne. Elle part cette nuit, on fait un dernier contrôle technique dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée aujourd'hui par Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Art et astronomie, impression céleste, c'est donc un livre qui paraît aux éditions Omniscience et que vous signez, Yaël Nazé, bonjour.
Bonjour.
Avec nous également en ligne par téléphone pour ce dossier, le planétologue Thomas Wiedemann, bonjour.
Bonjour.
Yaël Nazé, l'un des plus célèbres astronomes Galilée, a aussi réalisé, on le sait moins, des aquarelles de la Lune avec apparemment, selon vous, quelques inexactitudes scientifiques.
Hein. Elles sont bien connues, c'est-à-dire que ces aquarelles sont très jolies, mais bon, disons qu'elles ne représentent pas totalement la Lune. Il a notamment un magnifique gros cratère en plein milieu de la Lune qu'on pourrait très facilement voir à l'œil nu. Maintenant, son but, ce n'était pas de représenter exactement ce qu'on pouvait voir, mais d'impressionner pour pouvoir convaincre qu'il y avait du relief sur la Lune.
Ouais. Et ces dessins sont quand même restés dans l'histoire.
Ces dessins, c'est les premiers vraiment dessins scientifiques.
Thomas Wiedemann, pour représenter justement tout ce qui n'est pas observé directement, l'art reste indispensable aux astronomes. C'est un moyen de communication précieux pour votre profession ?
Tout à fait. Il y a dans le rapport à l'art et le rapport à la science beaucoup de points communs que nous avons certainement abordés durant l'émission. Il est vrai que la représentation des objets célestes, comme vient de le dire Yael, passe par quelquefois une toute petite exagération, le fait de forcer légèrement le trait afin de bien marquer la connaissance et la manière de la transmettre au plus grand nombre.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour justement en discuter, pour explorer ce lien étroit entre art et astronomie, avec l'évocation bien sûr de nombreuses œuvres dans le domaine des beaux-arts, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. À la suite de sa découverte de la relativité générale, Einstein a prédit en 1916 l'existence des ondes gravitationnelles, des ondes qui perturbent l'espace et le temps, et depuis presque 100 ans, les physiciens essayent en vain de les détecter, et les expériences continuent. LISA, justement, c'est une nouvelle mission imaginée par l'ESA et la NASA, et qui va partir cette nuit, j'espère que vous allez nous suivre. Bonjour Pierre Binetruy.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Paris Diderot, responsable français justement de la mission pour l'ESA. Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Philippe, justement, 5h15 précise cette nuit, c'est l'horaire du décollage de la petite Lisa depuis la Guyane.
Voilà, c'est ça, à bord d'une fusée Vega, qui est un petit lanceur de l'Agence spatiale européenne. Lisa, c'est un satellite qui pèse pas loin de 2 tonnes, et qui va donc d'abord décrire quelques orbites autour de la Terre et qui progressivement va changer cette orbite et va changer de trajectoire pour aller se retrouver dans un point un peu spécial qu'on appelle le point de Lagrange, un des points de Lagrange, où il sera un vol à peu près stationnaire par rapport à la Terre pour faire ses expériences. Alors ces expériences, ce sont non pas des tentatives de détection des ondes gravitationnelles dont on vient de parler, mais des expériences pour voir si la technologie imaginée pour détecter ces ondes depuis l'espace est viable et si on peut se lancer plus tard, dans les années 2030, dans une autre sonde, dans un autre satellite qui sera beaucoup plus cher, beaucoup plus sophistiqué, qui lui essaiera de détecter et d'étudier ces ondes.
Et qui s'appellera ELISA.
Pour l'instant, oui.
Voilà. C'est pour bien les distinguer.
Alors Pierre Binetruy, avant de parler du grand projet ELISA, on va revenir sur les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors les ondes gravitationnelles, ce sont des déformations de l'espace-temps. C'est-à-dire que Einstein et sa théorie de la relativité générale nous ont expliqué que toute masse déforme l'espace-temps dans son voisinage. Alors maintenant, si vous avez une explosion, un déplacement de masse important, eh bien ce déplacement de masse va induire un déplacement de déformation et en fait une onde gravitationnelle.
Et comment Lisa et Elisa vont faire pour détecter ces déformations ?
Alors, ces déformations sont infimes, et donc il faut bien voir que ces déformations déforment le tissu même de l'espace-temps. C'est un petit peu difficile à concevoir, mais ça veut donc dire que ça va changer notre notion de distance. Et donc, si une onde gravitationnelle passe dans la pièce, eh bien, les distances vont varier de façon infinitésimale. Et ce sont ces variations infinitésimales de distance qu'on va essayer de mesurer.
Alors, comment vous allez procéder, justement? Qu'est-ce que vous allez faire comme expérience?
Alors, l'idée, c'est d'avoir des masses qui ne sont soumises qu'à la force gravitationnelle, donc par exemple des masses en orbite, et de s'assurer d'abord que ces masses ne sont soumises qu'à la force gravitationnelle. Elles suivent ce qu'on appelle, dans notre jargon technique, des géodésiques, et on va essayer de mesurer la distance entre deux masses. Alors, dans le cas de la mission d'aujourd'hui, enfin de demain, demain matin, ça va être une petite distance, 30 cm, dans le même satellite. Dans le cas de la future grande mission, ce sont des distances beaucoup plus importantes, 1 million de kilomètres, et évidemment dans deux satellites qui sont reliés entre eux par un faisceau laser.
Et à 1 million de kilomètres de distance, on essaye de mesurer des variations de distance qui sont de quel ordre ?
Alors, ce qu'on appelle le picomètre, c'est-à-dire 10 moins 12 mètres, c'est-à-dire 1 et 1 avec 12 zéros. Donc, c'est des distances, des fractions extrêmement faibles. C'est pour ça que c'était si difficile à détecter. Mais on pense que on a la sensibilité nécessaire pour le faire. On utilise une méthode qu'on appelle la méthode d'interférométrie, c'est-à-dire qu'on fait interférer deux faisceaux lumineux. C'est pour ça qu'on utilise ces faisceaux laser entre les satellites, en fait.
Philippe Hénarejos, on a déjà des détecteurs sur Terre, je crois, pour étudier les ondes gravitationnelles aussi.
Il y a des détecteurs qui ont été conçus sur Terre pour détecter les ondes gravitationnelles, parce qu'il faut bien voir que depuis que Einstein a produit la théorie de la relativité générale, c'est une des conséquences de cette théorie, mais on ne l'a encore jamais observée.
C'est ça.
Donc avant de les étudier avec un satellite ou une armada de satellites, enfin, ou trois satellites qui auront une très grosse sensibilité pour déjà étudier en gros les caractéristiques de ces ondes, il faut déjà détecter les ondes. Et pour ça, il y a deux détecteurs au moins sur Terre, Virgo et LIGO, il y en a peut-être même trois, me fait signe Yael Nazé, qui sont déjà en marche, mais pour l'instant, leur sensibilité n'était pas suffisante. Et donc, elle est en train d'être remise à niveau pour avoir, disons, un maximum d'événements. Parce que les événements qui perturbent l'espace-temps sont des fusions de trous noirs, d'étoiles à neutrons, etc. Et on peut en détecter, mais pas trop loin. Mm-hmm. À mesure qu'ils sont plus loin, il faut être plus sensible. Donc, c'est ce qui a été fait et ça devrait marcher. On espère, cette année, 2016.
Il y a une
Mais en fait, il y a déjà un résultat qui a été trouvé avec un détecteur un peu particulier, c'est-à-dire qu'on observe des pulsars, donc des cadavres d'étoiles, qui sont comme des phares, donc on a un signal très régulier, il y en a un peu partout dans le ciel, et ils servent de balises. Et on a essayé de voir, justement, si on recevait pas les impulsions comme ça, un peu trop tôt, un peu trop tard. Et les premiers résultats viennent de tomber, et on n'a rien détecté. Donc, on n'a rien détecté, mais...
Pour le moment.
Ah. Donc c'est vraiment un truc assez intéressant aussi.
Quelle différence, Pierre Binetruy, entre ces détecteurs sur Terre et ceux qui vont être envoyés dans l'espace ?
Alors, je voudrais quand même, puisqu'on parle de ça, l'approche des ondes gravitationnelles, juste un mot, parce que ça vient d'être évoqué, on a quand même détecté on n'a pas détecté ces ondes gravitationnelles-là dans le cadre qui vient d'être mentionné, mais Hulse et Taylor ont eu le prix Nobel pour justement détecter ce genre de retard qui normalement est attribuable à des ondes gravitationnelles. Donc, normalement, on est à peu près sûr qu'il y a des ondes gravitationnelles, mais on les a pas encore détectées directement.
Et donc, il y a une complémentarité là, entre les objets sur Terre et les sondes spatiales ?
Absolument, il y a une complémentarité parce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais de la taille du site d'explosion ou de mouvement de la masse. Eh bien, cette taille peut varier de façon très importante puisqu'on a on parlait de trous noirs, on peut avoir des collisions de trous noirs, de petits trous noirs ou au contraire, des fusions de très grands trous noirs. Mmh. Et suivant la taille de ces sites d'explosion où se passent ces mouvements de masse, eh bien on a ce qu'on appelle des longueurs d'onde différentes. Et donc, exactement comme pour les ondes électromagnétiques, la lumière, eh bien on a des longueurs d'onde différentes et on va étudier des phénomènes différents. Eh bien là, de la même façon, les détecteurs au sol travaillent dans des longueurs d'onde différentes, beaucoup plus petites. La taille du détecteur, c'est quelques kilomètres par rapport à la taille du million de kilomètres dont on parlait dans l'espace. Et donc, les longueurs d'onde associées vont être différentes. Et si vous voulez, la taille des sites cosmiques va être différente. La future mission ELISA va tester des sites cosmiques de plusieurs millions de kilomètres de taille, donc des collisions de trous noirs géants, des choses comme ça.
Et donc, en attendant, c'est LISA, elle, qui va décoller donc cette nuit depuis Kourou en Guyane, et donc Albert Einstein qui fait toujours bosser les scientifiques 100 ans plus tard, et c'est tout à fait réjouissant. Merci beaucoup Pierre Binetruy pour vos explications.
Merci.
À bientôt. Merci Philippe Narajos. À bientôt.
À bientôt.
Dans les coulisses de la COP21 avec reporter.net.
Et ce sera comme ça pendant toute la COP21, puisque nous partirons dans les coulisses avec vous, Émilie Masmin, au téléphone avec reporter. Bonjour.
Bonjour.
Alors, un jour après l'ouverture, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que tout le monde est arrivé avec de bonnes intentions. Ça démarre plutôt bien, comme l'a souligné d'ailleurs François Hollande.
Exactement, ça démarre plutôt bien. Déjà, presque tout le monde est venu, puisque 150 chefs d'État ont fait le déplacement au Bourget. Et c'est vrai que la plupart ont fait preuve d'un volontarisme étonnant. En particulier, François Hollande a prononcé un discours d'ouverture très fort, une vraie main tendue aux pays en développement. Le président de la République a posé la question « Comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, qui soient les plus vulnérables ? C'est donc au nom de la justice climatique que nous devons agir. » Il a aussi plaidé pour que le réchauffement climatique soit maintenu, si possible, à 1,5 degré au lieu de 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce que souhaitent les pays les plus vulnérables, les petits États insulaires comme les Philippines par exemple. Quelques pays riches ont même pris de nouveaux engagements financiers. Certains pays de l'Union européenne, dont la France, ainsi que les États-Unis et le Canada, ont promis de verser 248 milliards de dollars au fonds des pays les moins avancés. Ce matin, la France s'est même engagée à investir 2 milliards d'euros pour le développement des énergies renouvelables en Afrique. Bon, reste à savoir si ces annonces seront suffisantes pour mettre en confiance les pays en développement. Parce que certains, comme l'Inde, ont campé sur des positions assez dures. L'Inde a rappelé la responsabilité des pays développés dans les changements climatiques. Et le Premier ministre indien, Narendra Modi, a souligné que les pays prospères ont toujours une empreinte carbone élevée et que les milliards de gens en bas de l'échelle du développement ont besoin d'espace pour croître. Ce qui signifie en fait qu'il n'est pas question de forcer les plus pauvres à renoncer aux énergies fossiles.
Donc la COP21 est bien partie, mais on sent quand même quelques tensions déjà, et c'est bien normal au début de cette conférence. Merci beaucoup Émilie Masmin, on vous retrouvera donc tous les jours pour faire le point sur cette COP21. Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle forme de carbone solide a été découverte après le graphite, le diamant. Voici le Q-carbone, ben oui, c'est son nom. Il est porteur de nombreux espoirs scientifiques, plus solide encore que le diamant. Il est créé artificiellement grâce à des lasers qui chauffent les atomes de carbone à plus de 3000 degrés et qui les refroidissent aussitôt après. Il pourrait même, grâce à lui, produire de véritables diamants très facilement. Et puis enfin, les mouches aux yeux écartés sont de véritables tombeuses, comme le requin marteau, les mouches Diopsidae. Ont des yeux positionnés à l'extrémité d'excroissance située de chaque côté de leur tête. Ces perches oculaires seraient un véritable atout de séduction pour les mâles, leur longueur étant directement couplée à la qualité de leur ADN et à leur fertilité. Mais ce n'est pas tout, ces mouches ont également une vision de près bien supérieure à celle des autres mouches. Science et Avenir d'ailleurs nous livre des photos très belles de cette drôle de mouche que vous pouvez retrouver donc en lien sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, l'art et l'astronomie ensemble dans un instant, c'est le dossier.
Dans cette matinée, le jardin est brillant. Les arbres sont tordus, ils sont tous ceux que j'aime. Dans cette matinée, les arbres sont tordus et leur feuillage est rouge, parlons fou. Bientôt le soir viendra, le jardin sera là. Sans personne dedans, moi je serai couché. Le jardin sera là, moi je serai couché. Et je dormirai sous, je parle en fou. Des années ont passé, je ne sais plus dans quel ordre. Je n'ai pas trop parlé, il y avait tant à dire. Des années ont passé, je n'ai pas trop parlé. Je n'avais pas le goût, je parle en fou. J'ai femme qui passait par ici, qui portait une robe et qui portait un sac, qui passait par ici et qui portait ce sac. J'ai embrassé sa joue, je parle en fou. Je n'ai eu qu'un pays et j'ai eu quatre frères. Ils sont là quelque part, chacun est dans sa ville. Je n'ai eu qu'un pays, chacun est dans sa ville. Chacun est dans son trou, je parle en fou. Une odeur vient à moi et je peux en pleurer. Le gasoil dans la pluie qui baise la lumière. L'odeur revient à moi, qui pèse la lumière. Où va celui qui bouge, parle en fou. Ça hurle dans la cour, on joue à une guerre. Le vent pique mon cou, je parle en fou. Ça hurle dans la cour, le vent pique mon cou. Les enfants ont leur cou, je parle en fou.
Je parle en fou, c'est Bertrand Belin sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Art et astronomie, impression céleste. C'est donc ce livre qui paraît chez Omniscience et vous en êtes l'auteur. Yaël Nazé, vous êtes astrophysicienne à l'Université de Liège au sein du FNRS, hein, c'est l'équivalent du CNRS français. Et puis en ligne avec nous pour ce dossier, Thomas Wiedemann. Vous êtes planétologue à l'Observatoire de Paris et maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec des questions sur le site de l'émission puis également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque, par exemple sur Twitter. Yaël Nazé, votre spécialité, ce sont quoi les grosses étoiles, c'est ça?
Les étoiles massives, oui. Donc les plus massives, au moins 20 masses, sinon...
Ça vous intéresse pas. Il faut avoir des mouses costauds, c'est
voilà,
ça?
C'est ça.
20 masses, c'est-à-dire 20 masses
La masse du Soleil, quoi. Ouais. Oui, 20 masses solaires. Au moins, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut aller jusqu'à une centaine, voire peut-être plus.
Ouais.
On ne connaît pas très bien la masse limite, mais bon.
Ouais.
Mais ce qui se passe, c'est qu'elles maigrissent quand même beaucoup au cours de leur vie.
Ah bon, qu'est-ce qui leur arrive?
Elles perdent leur masse par une espèce de gros vent. Bon, c'est pas le vent solaire, c'est un truc vachement plus fort. Mm-hmm. Il y a énormément plus de matière, ça peut aller jusqu'à 10 milliards de fois plus de matière perdue.
D'accord.
Et donc, voilà, elles perdent des masses et des masses de solaire. Et puis, quelquefois, elles terminent avec la moitié de ce qu'elles ont commencé.
Ouais. Elles ont une vie plutôt courte, apparemment.
Oui. Elles ont plus de carburant puisqu'elles sont plus grosses, mais d'un autre côté, elles brillent beaucoup plus. Elles brûlent la chandelle par les deux bouts, on va dire. Et du coup, notre Soleil, il va vivre 10 milliards d'années. Ces étoiles-là, quand c'est 2 millions, on est content.
Ah, c'est pas beaucoup, oui, effectivement.
non, c'est pas beaucoup.
Donc ça se consomme très, très vite. Elles donnent tour à leur public, en fait.
Ah oui,
hein,
elles sont 1 million de fois plus lumineuses. Donc vous imaginez, c'est vraiment. Ça brûle beaucoup plus fort.
Ouais. On les appelle les reines, c'est ça, de la population stellaire?
C'est moi qui les appelle comme ça. Oui, parce que ce sont des objets qui sont. Qui ont beaucoup d'importance pour leur environnement. Elles vont pouvoir créer de nouvelles étoiles ou alors carrément arrêter la formation stellaire dans leur environnement. Tout ça parce que justement, elles ont un vent très fort. Elles font aussi, quand elles meurent, un énorme boom, c'est les fameuses explosions de supernova. Et puis aussi, leur émission de lumière se fait dans l'ultraviolet. Donc c'est un rayonnement ionisant, c'est aussi, bon, ça zappe tout ce qui est autour, quoi.
Mm-hmm.
Donc du coup, si on veut comprendre un peu ce qui se passe dans les galaxies, on va dire l'écologie de ces galaxies, il faut comprendre les étoiles massives. Et bon, voilà, il y a encore du boulot.
Bon, vous êtes très rock'n'roll dans votre façon de parler d'astronomie, je trouve. Hein.
Ah bon?
C'est bien, non, mais c'est une bonne façon d'en parler en tout cas. C'est-à-dire que la vulgarisation vous intéresse beaucoup. Hein.
Oui, ça oui.
Donc il faut accrocher le public.
Oui, bien sûr. Et puis bon, si on n'est pas enthousiaste, ça ne sert à rien de le faire non plus.
Ouais. Hein. Est-ce qu'on en observe beaucoup de ces étoiles-là qui vous intéressent tant?
À l'œil nu, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Par exemple, pour le moment, ça va être la bonne saison pour observer Orion.
Mm-hmm.
Eh bien, la ceinture d'Orion, il y a là-dedans un certain nombre d'étoiles. Il y en a une où on a passé pas mal de temps récemment dessus. Donc voilà, la ceinture d'Orion, ça marche bien.
Thomas Wiedemann, quelle est, vous, votre spécialité en tant que planétologue? Et puis après, on va vraiment parler d'art et de science.
Alors, ce ne sont pas les planètes les plus grandes, mais les planètes de type terrestre, en particulier la Terre et Vénus. Dans notre propre système solaire, nous avons des astres extrêmement brillants. Vénus est l'astre le plus brillant après la Lune dans le ciel. Et c'est une planète qui avait tout pour devenir équivalente à notre planète, avec une masse identique, des matériaux qui la constituent, issus des mêmes régions du système solaire primitif. Et pourtant, elle a su ni pu évoluer dans le sens où nous aurions pu le rêver, c'est-à-dire devenir une autre Terre à quelques encablures de nous dans le système solaire. Et nous ne savons pas encore bien pourquoi. Et bien comprendre l'évolution divergente de ces deux planètes nous permet aussi de mieux comprendre la diversité des exoplanètes de type terrestre que nous commençons à découvrir autour d'autres systèmes stellaires aujourd'hui. Mmh. Et donc nous avons à notre porte, en quelque sorte, à quelques pas de nous, une autre Terre qui n'a pas réussi à devenir une Terre, et donc l'explorer est passionnant pour nous. Et cet aspect comparatif avec notre propre planète, y compris son atmosphère, oui, qui est respirable et invivable aujourd'hui, nous questionne beaucoup, y compris sur l'effet de serre dont on parle beaucoup en ce moment.
Oui, Yann Lezé.
Mais simplement peut-être pour dire, on la voit super bien en ce moment au matin, donc dès que le ciel est dégagé, jetez un petit coup d'œil. Le matin, vous la verrez super bien avant que le soleil se lève. Oui.
Vous coordonnez le projet Eurovénus, hein, Thomas Widmann?
Tout à fait.
Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce projet exactement? C'est justement pour explorer Vénus de plus près?
Tout à fait. Vénus est un peu la mal-aimée de l'exploration spatiale. Beaucoup de sondes explorent Mars. Nous avons eu la mission Rosetta récemment, oui, autour de la comète. Mm-hmm. La pression est... Admirons les grands résultats. Vénus a eu finalement depuis la fin des années 70 relativement peu de missions. L'avant-dernière datait des années 80-90. Vénus Express, la seule mission européenne vers Vénus, a terminé sa vie en début de cette année, après 8 années d'un fonctionnement extraordinaire. On a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux résultats sur la physique de cette atmosphère, qui est très complexe, avec une chimie de nuages exposés à des vents extrêmement rapides et des mélanges de composés minoritaires dont on ne comprend pas complètement le rôle, et en particulier le rôle avec un possible volcanisme actif sur cette planète. Mais nous étions les seuls. Les Européens ont acquis une sorte de leadership sur l'exploration de cette planète et ont continué un petit peu cet effort en stimulant la recherche sur Vénus dans différentes équipes européennes.
Est-ce que les artistes, justement, beaucoup représentaient l'étoile du berger?
Bien sûr.
Quelques-uns, oui.
La même chose, je laisse la parole à ma collègue, ouais, qui pourra sûrement le dire.
Oui. Yael Nazé.
Quelques-uns l'ont fait, bien sûr. Et puis aussi sous la forme de Vénus, hein. sous la forme allégorique aussi.
Alors justement, Yael Nazé, l'astronomie, c'est vraiment le domaine scientifique idéal, en fond, pour les artistes, et ça depuis très longtemps, hein, c'est ce qu'on redécouvre aussi grâce à votre livre. C'est vraiment le ciel au sens très large qui est représenté, hein, dans beaucoup d'œuvres. C'est ça qui vous a intéressé?
Oui, la variété est assez impressionnante. Finalement, on a de tout. On a vraiment de l'observation, hein, donc des gens qui vont regarder. On a des choses liées à des allégories, parfois religieuses d'ailleurs. Et puis on a aussi tout un ensemble de réflexions finalement sur notre conception du monde. Mm-hmm. Donc il y a vraiment un peu de tout, non? C'est extrêmement intéressant.
Ouais. Il y a une œuvre pour vous qui est vraiment le point de départ de ce travail aussi?
Oui, c'était le Stars de Kandinsky. C'est, enfin, je sais pas, ça a été un choc comme ça. Je suis tombée dessus. C'était OK. Faut que je fasse quelque chose.
Ouais. Et donc là, c'était vraiment, voilà, un travail de recherche ensuite, hein, pour,
oui,
vous.
Oui, c'était le début. Je connaissais un petit peu certaines œuvres et tout ça, mais là vraiment, je sais pas, c'était quelque chose qui a lancé la réflexion et de se dire, ah oui, il y a quand même des trucs auxquels j'avais pas du tout pensé au départ. Ouais. Regardons un petit peu.
C'est pas celui-là, d'ailleurs. C'est pas ce Kandinsky, hein, qui est en couverture de votre livre, mais on retrouve quand même le vôtre, oui, dans cet ouvrage, un livre qui ne traite que des beaux-arts, hein, justement, il faut le préciser,
oui,
aussi, avec,
oui,
une,
oui,
sélection d'œuvres emblématiques, hein, qui illustrent bien cette relation. Thomas Widmann, justement, ce lien art et science, c'est important pour vous de souligner, de le montrer, d'en parler aussi avec vos étudiants?
Il est très fort. C'est un lien qui est consubstantiel. Je dirais que prenons l'exemple de la couleur, puisque nous parlons des tableaux de Kandinsky, ou nous parlions des ondes gravitationnelles tout à l'heure avec nos collègues.
Oui.
Eh bien, l'onde lumineuse se définit par sa couleur, et c'est quelque chose qui va interpeller à la fois le scientifique, le savant, et le peintre et l'artiste. Et ainsi, tous les phénomènes de la nature ont une déclinaison et dans le domaine des arts et dans le domaine des sciences, et je ne vois pas de limite à la curiosité, l'émerveillement humain dans l'une ou l'autre des directions. Il y a vraiment une grammaire commune, et les savants et les artistes ont tout intérêt à se parler, à se communiquer entre eux. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Newton a inventé la reconstitution de la lumière blanche à partir de disques colorés qu'il faisait tourner pour bien montrer à ses interlocuteurs que la lumière blanche n'était que le résultat de la fusion de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et bien ces objets, qui sont des objets d'art, ces peintures faites à l'époque de Newton pour expliquer ce phénomène, sont des objets du patrimoine absolument merveilleux qui pourraient s'exposer dans un musée.
Un tweet de Christophe qui nous dit ceci: on voit beaucoup de représentations astronomiques estampillées vues d'artistes. Comment sont-elles faites? Est-ce que c'est en collaboration avec des scientifiques et quelle est la marge d'imaginaire laissée à l'artiste? On le voit pour les exoplanètes, par exemple, mais il y en a très nombreux.
La partie d'imaginaire, évidemment, va dépendre du sujet. En fait, on a une vue d'artiste à partir du moment où on aimerait bien montrer quelque chose, montrer un phénomène céleste, mais où on n'a pas de photo. Et donc, il faut bien essayer de se débrouiller. Et donc, on essaie de représenter la façon dont on pense que ça se passe là-bas, avec évidemment une discussion qui doit être faite entre celui qui va représenter et le scientifique à l'origine de la découverte ou du travail. Il y a une part pour les exoplanètes. Bon, on ne sait pas s'il y a des nuages, quantité, des choses comme ça. Donc forcément, il y a une part. La part dépend vraiment du sujet. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus contraints que d'autres. Et c'est assez vieux, on en avait déjà si on prend les livres de Flammarion, on a déjà ce genre de représentation.
Ouais. Et c'est très important, Thomas Dinman, de donner à voir aussi au public cette science dont on parle, mais qu'on ne peut pas représenter concrètement.
C'est très important, puisque c'est à condition que l'objet représenté ne se substitue pas à la connaissance scientifique qui s'élabore dans nos laboratoires, c'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche de fond qui s'appuie sur les lois de la nature, les lois de la physique. Et il ne faut pas que l'objet représenté prenne le pas, finalement, sur le processus de scientifique qui est toujours basé sur le doute, sur des questionnements et sur des interrogations. Et le produit artistique résultant de l'objectif qui consiste à communiquer le résultat au grand public ne doit pas se substituer au travail de recherche qui reste forcément perfectible et surtout qui est une vue de nos connaissances à un instant donné mais qui pourrait changer dans le futur.
Toujours. Écoutons Jean-Pierre Luminet qui lui évoque le cas d'un artiste et astronome puisqu'il est devenu Étienne Léopold Trouvelot, c'était au 19e, qui représente un peu l'apogée du dessin astronomique juste avant l'arrivée de la photographie.
Trouvelot a fait beaucoup de cartes de la Lune, observées toujours à l'œil derrière un télescope. Et notamment, il y a un de ces pastels qui représente une région de la Lune, un grand cratère qu'on appelle la mer des humeurs, avec un luxe de détails, avec les ombres rasantes du soleil, les petits cratères, les petits impacts des météorites, et ainsi de suite. C'est un dessin absolument magnifique. Et plus d'un siècle plus tard, des télescopes embarqués sur satellites ont pris exactement cette même région de la Lune, les grands programmes de la NASA, et quand on fait la comparaison, eh bien on s'aperçoit avec stupeur qu'il y a encore plus de détails dans les dessins de Trouvelot.
Voilà, Yael Nazé. Et on trouve justement la représentation de cette mer lunaire dans votre ouvrage. C'est un cas intéressant, Trouvelot, justement.
Ah oui, Trouvelot.
Il a un cratère qui porte son nom, d'ailleurs, maintenant.
Bien sûr, bien sûr. Non, c'est un cas très intéressant parce que ça montre bien, c'est quelqu'un qui était extrêmement intéressant. Il est très curieux. Au départ, d'ailleurs, il ne faisait pas d'astronomie.
Non, il est devenu sur le tard.
Est devenu sur le tard. Il a d'ailleurs provoqué une mini-catastrophe écologique aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Il voulait faire l'élevage des vers à soie et les vers à soie américains n'étaient pas très bon, donc il en a pris des Français, mais qui n'avaient pas de parasites ni de prédateurs aux États-Unis. Et donc, disons que ça a un petit peu.
Il était meilleur pour dessiner alors. Ouais.
Oui, du coup, il s'est reconverti, c'était moins dangereux l'astronomie.
Ouais, il a fait 7000 illustrations quand même.
Oui, et puis il a été le premier à suivre, par exemple, tout le développement d'une tempête martienne, à le dessiner du début jusqu'à la fin.
C'est ça.
C'est vraiment amusant de voir comment un gars qui au départ n'était pas astronome, il n'avait pas suivi spécifiquement d'études ou quoi, mais rien qu'avec sa curiosité et son travail, eh bien, il est arrivé à faire des choses extrêmement intéressantes.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre avec vous ces liens entre l'art et l'astronomie.
You brought roses and wine, then ran out of time, where you going to? Said you'll be back at nine, a comfort to my mind. Am I a fool? Do you really care, my lover, my friend? Then stay with me till the bitter end. Or is this our last goodbye? No more roses and wine with you. Where you going to? and where you gonna lead me? I'm lost, can you find me? You promised you would save me, so why am I sad and lonely? Believe me, this ain't easy, this tired game of teasing. So please release me, I'm begging you to stop. You return just after nine with more roses and wine and some candy too. Go give them to your wife, keep her satisfied, 'cause she loves you, 'cause she loves you, and you love her, and you love her, and you love me.
Roses and Wine avec Alani sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
L'astrophysicienne Yaël Naï est en studio à mes côtés pour ce livre Art et Astronomie, Impression Céleste aux éditions Omniscience. Et puis par téléphone, le planétologue Thomas Wiedemann, les courriels des auditeurs et cette question de Larry. Alors ça tombe bien parce que c'est abordé justement dans votre livre sur la couleur rouge du ciel dans l'œuvre Le Cri d'Edouard Munch. Est-ce que c'est une observation ou une interprétation de l'artiste, demande Larry. Yael Nazé.
Alors le peintre en a parlé en fait dans beaucoup de lettres. Il y a eu en fait des couchers de soleil absolument extraordinaires suite à l'éruption du Krakatoa.
1883.
Voilà. Et donc ça l'a marqué. Hein. Il a décrit ça comme vraiment du sang, un cri dans la nature. Enfin vraiment très. Quand on voit ce qu'il écrit à ce moment-là et quand on voit la peinture, c'est la même chose. Quoi. On a l'impression qu'il décrit sa peinture.
Ouais. Simplement, pourtant les commentateurs en ont douté à un moment. Hein.
Oui, parce qu'il n'a pas fait sa peinture tout de suite.
Ouais, il y a eu 10 ans qui se sont écoulés. Exactement. Entre les deux événements.
Maintenant, justement, quand on voit un peu ce qu'il y a dedans, quand on voit la façon dont il décrit, c'est un peu. Enfin, c'est difficile d'en douter. Maintenant, ce qui est assez amusant, c'est que cette idée hein, de rouge dû finalement à la poussière, elle a été exploitée il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une équipe grecque qui a commencé à regarder tout un ensemble de tableaux au cours du 19e. Qui
avec
ont réalisé,
des cieux rouges.
Avec du ciel, d'un coucher de soleil simplement. Donc ils analysaient les couchers de soleil et regardaient. Et puis ils ont trouvé effectivement, sans a priori, des pics qui correspondaient aux éruptions volcaniques dans des tableaux de Turner, de Degas, de Munch aussi. C'est assez amusant.
Oui. Alors donc vous montrez d'autres tableaux d'ailleurs de Munch parce que c'est vraiment l'homme des cieux tourmentés, hein, Edouard Munch. Hein.
Oui, il a plusieurs nuits étoilées, lui aussi. Il a aussi une peinture qui s'appelle Tempête. Il a quelques levées de soleil, couchers de soleil, enfin des choses comme ça. Donc il y a quelques toiles intéressantes. Et ce qui est amusant, c'est que finalement quelque part ces toiles, il y a toujours une petite énigme derrière qu'on peut regarder. Il y en a une par exemple qui était très connue à l'époque, peut-être moins maintenant, qui est des jeunes filles sur un pont. Et il y a la lune dans le ciel et puis on voit le reflet des maisons dans l'eau et il n'y a pas le reflet de la lune. Ouais. Et c'est normal en fait, c'est une observation, c'est pas juste il a fait ça comme ça, il a oublié ou... Non, il y a une explication scientifique.
Il était très attentif au contraire,
il était extrêmement
c'est ce que
attentif,
vous expliquez, vous montrez même de quelle façon il a pu peindre par rapport à l'endroit où il se trouvait.
Oui, donc c'est intéressant de voir à quel point certains croient que les artistes vont complètement délirer, faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils voient. En fait, non, ils vont être aussi extrêmement attentifs, extrêmement curieux. Et je crois que c'est là aussi qu'on peut trouver vraiment un lien avec les scientifiques. C'est la curiosité de départ, l'intérêt pour la nature.
Thomas Wiedemann, on parlait des vues d'artistes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des choses qui restent difficilement représentables en art au sujet justement du ciel? Je pense par exemple à la naissance du Big Bang. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est facile à représenter?
C'est pas simple, en effet. Yael citait les tableaux de Turner. Effectivement, il y a eu une gigantesque éruption volcanique plus puissante encore que le Krakatoa en 1815, le Tambora, en Indonésie également. Et ces cieux extrêmement tourmentés du crépuscule se voient dans toute une série de tableaux de l'époque du début du 19e à Turner, Caspar David Friedrich aussi en Allemagne. Et d'une certaine manière, l'art apporte aussi beaucoup à l'astronomie. On a ces représentations de comètes, de la comète de Halley, dans la tapisserie de la reine Mathilde. lors de l'invasion de Guillaume le Conquérant en 1066, également le peintre Giotto qui l'a représenté dans une fresque en Italie. Et donc, nous sommes un petit peu à la recherche de ces représentations anciennes qui ne sont pas forcément dans l'œil d'un savant, mais plutôt d'un artiste, mais qui nous apprennent beaucoup sur les objets du système solaire. Alors effectivement, certains de ces objets, certains de ces thèmes, certains de ces, ne serait-ce que l'atome, ou des notions scientifiques extrêmement complexes à partager, font la part belle à l'art pour être représentés et expliqués au plus grand nombre. Ça, c'est tout à fait naturel.
Yael Nazé, alors certains objets ont été au contraire très représentés, c'est le cas de la Lune, hein, qui est largement évoqué dans votre ouvrage, mais ça a été longtemps un problème aussi pour les scientifiques avec ces taches à sa surface. Comment est-ce qu'on les interprétait au départ ?
C'était assez compliqué parce que bon, il faut se souvenir qu'on était on a été pendant très longtemps dans un cadre lié à la physique d'Aristote dans lequel les cieux étaient parfaits. Et quand on regarde la Lune, bah dans le genre parfait, on en est loin.
Ouais.
Et donc les taches, c'est un gros problème. Est-ce que c'était quelque chose qui s'interposait entre la Lune et nous, donc des espèces de nuages, on va dire. Est-ce que c'était vraiment sur la Lune? Et dans ce cas-là, est-ce que elle était quand même imparfaite? Mais pourquoi? Mais bon, ils disaient quand même qu'elle devait être absolument lisse. Et là, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on a parlé des aquarelles de Galilée. Galilée va essayer de le démontrer, justement. Regardez, elle est pas lisse. Je viens de la regarder à la lunette. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant, bien avant. Et ce sont justement des artistes. Et on a par exemple Van Eyck qui va représenter la Lune plusieurs fois au début du XVe siècle. Et il va représenter la Lune non seulement avec ses taches. Donc officiellement, il dit voilà, il y a des taches. Ah, il insiste, mais en plus, il va représenter le terminateur. Donc, c'est la limite entre la zone éclairée et la zone sombre, le bord de la Lune, on va dire. Il va la représenter non pas lisse, non pas une belle ligne toute droite, mais une ligne avec des petites aspérités. Ce qui sous-entend que la Lune n'est pas sphérique. Et il y en a plusieurs autres qui vont.
On le voit dans Crucifixion. Hein,
on le voit dans la Crucifixion, hein. Entre autres. Et alors, il y en a d'autres qui vont.
On est au 15e.
Il y en a d'autres qui vont rebondir sur le débat en montrant des lunes qui ne sont pas comme la physique de l'époque le voudrait.
Et ça, c'est une véritable révolution, évidemment, dans les mentalités. Cette révolution se prépare, bien sûr, avec Galilée, extrait du film Galilée ou l'amour de Dieu.
Et c'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous ça?
Je ne l'explique pas, Éminence. Je le constate. L'observation précède toujours l'explication.
Il faudra tout de même une explication.
Oui, quand nous aurons compris. C'est vrai, ces satellites de Jupiter me fascinent. Quatre petits astres tournant autour d'un gros.
Oui, je vous comprends. Le ciel est à l'image de la Terre.
Oui, ou bien le contraire.
Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le Collège romain vous aidera, je vous l'assure.
Et c'est d'une beauté extrême. À chaque instant, on peut s'attendre à voir le Seigneur se manifester. Oui, c'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Vos élèves n'attendent que ça. Et nous aussi. N'hésitez pas à tout remettre en cause.
Voilà, c'était la belle période, on va dire, de Galilée. Hein. On lui ouvrait vraiment le chemin pour qu'il s'exprime et qu'il fasse part de ses observations révolutionnaires. Ça s'est gâté, évidemment, par la suite. Hein.
Bah, un petit peu, oui, effectivement.
Un petit peu légèrement, oui.
Mais bon, ce qui est amusant, c'est de se rendre compte que cette lune cratérisée et tout, on se dit, oui, ça, c'est justement au Vatican, ça va être une tempête et tout. Et puis finalement, un des amis de Galilée, qui lui aussi va observer la lune avec sa lunette, va la représenter, c'est un de ses amis peintres, Figoli, et il va la représenter à Sainte-Marie-Majeure, donc au Vatican. Et le pape sera très content de cette merveilleuse lune cratérisée qu'il vient d'hériter.
Alors, notre lune, évidemment, notre satellite, et puis les satellites de Jupiter, qui ont joué un rôle extrêmement important aussi dans le bouleversement de l'astronomie. Il les a dessinés, Galilée, ou pas?
De manière beaucoup plus simple, schématique, on va dire. C'est-à-dire que sur ces dessins, on voit Jupiter comme un simple cercle, et puis à côté, il dessine des espèces de petites étoiles qui, en fait, représentent les lunes.
Oui. Thomas Widmann, dans le domaine de la cartographie, là aussi, il y a des choses assez intéressantes. Des cartes de la Lune de Jean-Dominique Cassini, par exemple, qui ont servi aussi très récemment à la NASA. Hein. C'est-à-dire que des œuvres très anciennes, là, en l'occurrence du XVIIe, on les utilise encore. Quel intérêt?
Eh bien, figurez-vous que l'œil exercé d'un astronome à l'oculaire d'une lunette astronomique ou d'un télescope voit plus clair qu'un appareil photographique, et cela jusqu'au XXe siècle. Et ces observations et ces dessins d'une grande pureté, d'une ciselée avec le trait de crayon d'un observateur, permettre de rendre compte de la texture des terrains. Et lorsque la NASA a préparé les missions spatiales Apollo, lorsqu'il s'est agi de faire atterrir des hommes à la surface de la Lune, on s'est inspiré de ces dessins, des cartes de la Lune du XVIIe, du XVIIIe jusqu'au XIXe siècle, avant l'invention de la photographie. Et cela a aidé à diriger les premières missions spatiales vers les mers lunaires, ces étendues qui paraissaient plus adaptées pour l'atterrissage.
Vous-même, en tant que planétologue, vous avez recours encore à certaines œuvres très anciennes, pourquoi pas ?
Pas dans nos travaux de recherche contemporains, certainement pas. En revanche, pour comprendre les grandes lois du monde, nous parlions juste à l'instant précédent des satellites de Jupiter. Il faut voir aussi la portée de la découverte des lunes de Jupiter par Galilée dans cette réflexion qu'on avait alors à l'époque sur la notion de centre de l'univers. On se demandait encore si l'univers était fini, s'il était infini, si la Terre était au centre de l'univers ou s'il y avait plusieurs centres. Mmh. Le Soleil était le centre de l'univers, comme Copernic l'avait dit quelques 50 années auparavant. Et donc, d'avoir un système de lunes autour d'une autre planète bouleversait encore plus cette idée qu'il pouvait y avoir plusieurs centres, que c'était tout à fait compatible avec les lois de la nature, et cela a beaucoup aidé à sortir du paradigme du système d'Aristote pour avoir cette idée d'aujourd'hui des masses qui assurent leur propre champ de gravité dans l'univers.
Yael Nazé, ce courriel d'Aurélie qui demande à l'heure actuelle, est-ce qu'il existe encore des artistes qui continuent à représenter l'astronomie dans leurs œuvres ?
Énormément.
Il y en a beaucoup, hein. Vous montrez quelques pièces d'ailleurs. Dans
oui, il y a un petit peu d'art moderne et d'art contemporain aussi. Il y a énormément de choses. Il y a des réflexions extrêmement intéressantes. Et je veux dire, à tous les niveaux, ça peut être des sculptures, ça peut être des installations, ça peut être des peintures. Il y a même des choses comme du land art, hein, donc, ou des jardins. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se fait encore aujourd'hui. Ouais. Alors évidemment avec des dimensions si on prend de l'art conceptuel, forcément il y a peut-être un besoin d'introduction, d'explication au départ. Mais il y a là-dedans des œuvres extrêmement intéressantes. Oui.
Et très amusantes, c'est le cas de l'artiste Franck Petronigro qui lui a fait un vol en microgravité en 1998. Mm-hmm. Donc il a peint dans un Airbus A380, je crois. Mmh. Et sa toile s'appelle Acrylique, poussière de diamant, limaille de métal et vomi sur toile. C'est tout ce qu'il a vécu pendant le vol.
Voilà,
hein.
Exactement. Donc en fait, ça, c'est toute une mouvance qu'on appelle l'art spatial, qui en fait essaie de concilier cette idée de conquête spatiale avec l'art. Et bon, il y a plusieurs domaines là-dedans. Mmh. Mais alors lui, évidemment, son idée, c'était... il ne pouvait pas aller en tant que touriste dans l'espace. Ce n'était pas possible encore à ce moment-là. Donc il a pris ce qu'on appelle le vomit comet. C'est-à-dire, en fait, c'est des avions qui font des vols paraboliques. On a quelques dizaines de secondes.
Il faut avoir
quelques dizaines de secondes par parabole pour, en étant en apesanteur. Et donc, il a voulu tester, en fait, comment on pouvait faire de la peinture un peu un style à la Pollock, hein, donc
c'est très joli ce qu'il a fait
avec en étant dans l'espace, donc pas dans l'espace mais en apesanteur, et donc avec un comportement de la peinture totalement différent.
Ouais, il y a même une exposition qui a été organisée dans la station Mir, ça je ne le savais pas, en 1996, où des œuvres ont été envoyées. Ça a dû faire plaisir aux astronautes
lors d'une mission française d'ailleurs, franco-russe.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion, et nous évoquerons entre autres la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Là aussi il y a beaucoup de choses à dire.
Un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves, un amant incompris qu'elle quitta pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me foutais de sa vie et surtout de son avis, beaucoup moins de son envie. Tu veux pas, je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste alors. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas d'erreur. juste à l'heure. Je me brise au whisky glace, mais je courtise avec classe. Je m'allume en Malibu, malade bambo quand j'ai trop bu. Ce magazine nous contamine, je préfère encore les fanzines. Pour la télé, y'a pas photo, je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue, image du monde à votre âge, c'est immonde de vivre sur le cul de ces individus qui n'ont pas pu à dire que Raoul sur sa team est un machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de là. Oh, machiste adore. J'ai le membre en poche et d'un pas pragmatique, je pratique la drague, mais ma poitrine est imberbe. Il faut y remédier pour jouer au salaud comme les fils de John Wayne avec un long manteau à chapeau. Non, pas la peine. Même les jours difficiles, j'ai toujours les mots piles. Et si ça machiste adore, et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de rage. Ah, oh, machiste adore. Machiste adore. Et je sais qu'elle m'adore. Non, 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 y'a pas de rage. Ensemble, allez, macho, macho, machistador, macho, macho.
J'adore.
Macho, macho, machistador, macho, macho.
J'adore.
Allez, macho, macho, machistador, macho, macho.
J'adore.
Ouais, macho, macho, machistador, macho, macho.
Machistador M sur France Inter. Et dans La Tête au Carré, nous parlons art et astronomie avec Yaël Nazé, donc ce livre Art et astronomie, impression céleste, édition Omniscience, et Thomas Wiedemann avec nous, qui va être en cours d'ailleurs, Thomas Wiedemann, hein, dans quelques instants, je crois. Hein. On salue vos élèves qui sont à l'écoute de La Tête au Carré cet après-midi. Un mot sur le travail d'iconographie, Yaël Nazé, parce que c'est assez compliqué. Là, vous avez fait un boulot remarquable, je dois le dire, pour réunir toutes ces œuvres. Avec beaucoup, beaucoup de tableaux, quelques photos également, cette éclipse magnifique, la lune Rhea qui éclipse la lune Titan. Ce sont deux satellites de Saturne. Magnifique photo, hein.
Ah oui, je l'aime beaucoup. Ouais. Mais voilà, pour les entêtes de chapitre, je voulais mettre de vraies photos astronomiques.
C'est ça.
Mais sinon, voilà, le reste, ce sont des œuvres. Ça n'a pas toujours été simple de les trouver, oui. Mais bon, voilà. On a fait ce qu'on a pu. Et c'est vrai que finalement, au résultat, on est quand même assez content d'avoir pu en mettre autant.
Oui.
Thomas... C'est difficile, parfois, il y a des choix douloureux à faire.
C'est sûr, j'imagine que vous avez beaucoup souffert, mais le résultat en vaut la peine. Bambino sur Twitter, Thomas Wiedemann nous dit ceci. De nos jours, la réflexion scientifique ne puise-t-elle pas son ambition dans l'imaginaire artistique, comme c'était le cas avec Jules Verne, par exemple?
Ah, on peut le dire, tout à fait. Et surtout que la distinction qu'on peut faire entre une véritable photographie et une représentation artistique, elle est contemporaine. Il est évident que quand on parle des cartes du ciel ou de la nuit étoilée représentée à l'époque de la Renaissance ou même de l'Antiquité chinoise, moyenne-orientale, eh bien, ce ne sont que des dessins d'artistes. On n'a pas d'autre choix de retrouver ces preuves de l'intérêt pour nos contemporains de l'époque pour les belles choses de l'astronomie.
Julie demande, est-ce qu'un jour on aura une photo directe d'un trou noir, Thomas Wiedemann?
Oh, j'ai envie de laisser ma collègue Yael Nazé répondre.
Alors, Yael Nazé.
On espère, disons qu'il y a des projets. On a des photos de pas trop loin, on va dire. Mais vraiment du trou noir tout seul, pas encore. Il y a des projets pour essayer d'en prendre. Mais c'est pas simple. Il faut se rendre compte que c'est quand même quelque chose qui est fort petit, qui est pas tout près. Et donc, c'est assez compliqué à faire. Mais on espère bien en avoir une vraie.
Et ça, ce sera un sacré moment quand même. Un sacré scoop pour le premier qui aura cette photo.
Je crois que pour l'astronome, oui. Maintenant, pour le grand public, il va se dire, bon, finalement, ça ressemble à ce qu'on a vu dans Interstellar et tout. Enfin,
à cause des représentations d'artistes,
exactement,
justement.
Donc. En tout cas, si on est bon.
Ouais. Écoutons Jean-Pierre Luminet nous parler de Vincent Van Gogh autour d'un tableau qu'on retrouve d'ailleurs dans votre ouvrage « La nuit étoilée ». C'était en 1889.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Van Gogh a écrit le 25 juin 1889 une lettre à son frère Théo, lui disant « J'ai enfin achevé la nuit étoilée ». Donc on peut penser que Van Gogh a commencé à poser la première esquisse de ce tableau quelques semaines auparavant. Et grâce au logiciel de reconstitution astronomique dont on dispose aujourd'hui sur les ordinateurs, on peut calculer l'aspect du ciel à l'époque où Van Gogh a commencé son tableau au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence. Donc je me suis amusé à faire cette reconstitution et j'ai trouvé quelque chose de très troublant, c'est-à-dire une date extraordinairement précise et un moment extrêmement précis où la configuration du ciel porte les astres, c'est-à-dire le croissant de lune, Vénus apparaissant au-dessus de l'horizon, un couple d'étoiles de part et d'autre du grand cyprès, exactement à la position peinte par Van Gogh. Cette date, c'est le 25 mai 1889 à 4h40 du matin.
C'est précis, Yael Nazé. Ça, c'est oui, une proposition de Jean-Pierre Luminet.
Voilà, c'est la proposition de Jean-Pierre, ouais. Que je salue s'il nous écoute. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. La nuit étoilée est quand même, pose un petit problème. C'est pas la plus facile. La nuit étoilée sur le Rhône, qui est beaucoup plus facile à identifier.
Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, qui sont représentés aussi dans le livre.
Vraiment, nuit étoilée, il y a quand même une controverse.
Oui, toujours.
Ceci dit,
c'est fascinant quand même.
Elle est tellement belle.
L'histoire est merveilleuse quand même. Partir d'un tableau pour en déduire un moment précis.
Oui, hein,
ce qui s'est passé dans le ciel à ce moment-là.
Ce qui est extraordinaire, c'est ce centre, ce tourbillon central, enfin ce double tourbillon central, qui représente quand même, qui est totalement lié à un dessin de l'époque,
ouais.
Qu'il a certainement vu en fait dans ses lectures, parce qu'il était un lecteur assidu de l'astronomie de Flammarion.
Ouais.
Et c'est assez amusant de voir finalement la vulgarisation marchait très bien à ce moment-là aussi.
J'ai le tableau au fond aussi.
Et alors voilà, ça l'a fasciné, il a décidé de la représenter. Alors finalement, bon, ok, que le ciel autour représente un moment précis ou pas, finalement on s'en fiche, ça montre qu'on peut vraiment se réapproprier la connaissance scientifique et en faire quelque chose de merveilleux.
Oui, Thomas Wiedemann, donc c'est un moment de science sans le savoir au fond, hein. C'est un exemple comme le cas du tableau de Van Gogh.
Tout à fait, et on est toujours à l'affût de ces représentations du ciel, y compris dans le passé. En 1006 de notre ère, 6 années après l'an 1000, il y a eu la plus grande supernova de l'histoire, jamais enregistrée, jamais mentionnée, jamais répertoriée, une supernova qui faisait probablement 10 ou 15 fois, 60 fois, 10 certains, l'éclat de Vénus.
Mmh.
Elle projetait une ombre pendant la nuit, elle était au ras de l'horizon sud, donc on ne l'a pas vu beaucoup dans l'Europe du Nord, mais elle a été décrite dans des chroniques européennes, chinoises, japonaises, égyptiennes, irakiennes, etc. Et ce sont des textes, là on n'a aucune visuelle, on n'a que des textes, mais on essaie justement de retrouver dans ces traductions, dans ces textes qui ont circulé dans l'époque médiévale, des descriptions les plus précises possibles. Donc on est aussi tributaire de l'écrit dans ces représentations du ciel anciennes, et qui est aussi de l'art d'une certaine manière.
Baptiste demande de quand date la plus ancienne représentation de la nuit étoilée, Yael Nazé.
Alors d'astres ou de nuit, bon alors... Avec certitude, dans l'Antiquité, puisqu'on a plusieurs représentations, alors là un peu d'astres personnifiés, hein, notamment chez les Mésopotamiens. Maintenant, il y a eu des propositions sur certaines peintures rupestres, elles représenteraient des astres, notamment par exemple les Pléiades à Lascaux. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas en être certain. On n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas les écrits. Donc l'Antiquité, c'est sûr, avant peut-être.
Et puis, un dernier mot sur les astronomes eux-mêmes, qui ont fait l'objet aussi de représentations. Et vous citez beaucoup de tableaux. Il y a Galilée, par exemple, pour le plus connu, mais pas seulement. Hein.
Il y en a énormément. Alors maintenant, ils se ressemblent pas tous. Hein,
c'est intéressant de voir aussi comment, dans la tête des artistes, sont représentés les scientifiques.
Ah, des hommes sages et doctes, seuls, mélancoliques, qui regardent d'un air rêveur par la fenêtre.
Ouais. C'est pas tout à fait vous, ça, par exemple.
Non, pas vraiment. Mais bon, voilà, ça dépend. Parfois, il y a des représentations réalistes, mais par contre, il y a des représentations magnifiques aussi, modernes, un hommage moderne de Max Ernst. Que
vous aimez beaucoup, que vous aimez énormément, et que on peut découvrir dans cet ouvrage Art et Astronomie. Donc, c'est chez Omniscience avec beaucoup de tableaux et cette histoire, justement, de lien entre les artistes et l'astronomie. Merci beaucoup à vous. Merci Thomas Wiedemann et bon cours.